Le 11h35 dans Cameroun, magazine Djuleika Oumarou Aliou. Bonjour.
Bonjour Armand Nonga.
Bonjour Armand Nonga. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous, bienvenue au Journal des Régions, d'abord les titres. Absentéisme des agents de l'État, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Son Lugla, Kildarita Gegebuka, procède à une sensibilisation à travers plusieurs conseils régionaux de discipline tenus en vue d'identifier les services déconcentrés où la pratique est assez récurrente. Les détails dans le JDR. Le café à l'ouest, renaissance après des années difficiles. Production en hausse et ceci grâce à la subvention gouvernementale. L'espoir d'un retour aux bonnes affaires autour de l'or noir. Le JDR fait le point dans ce journal. Dressage des chiens à Berthois, une activité lucrative. Le JDR va à la rencontre d'Albert Dibrin, spécialiste du dressage, qui tire ses revenus de cette passion. Un atout pour les propriétaires des chiens pour des animaux de compagnie bien éduqués. Et puis, élan de solidarité pour les enfants vulnérables du département du Diaïlobo dans le sud. L'élite Jean-Jacques Mebiam Iya vient de distribuer des bourses et kits scolaires aux élèves de Ndjom et Sam à 40 km de Saint-Mélima. Objectif, permettre aux parents de préparer avec sérénité la rentrée scolaire de leur progéniture. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Journal des Régions. À l'ouverture, parlons de l'absentéisme des agents de l'État à leur poste de travail dans la région de l'Adamawa où le gouverneur Kildarita Gegebuka rappelle à l'ordre des personnels concernés une interpellation qui sonne comme une mise en garde que s'attelle à implémenter l'administration locale en charge de la fonction publique et de la réforme administrative. La tenue des conseils régionaux de discipline en sont régulièrement issus, des cas d'absence et bien d'autres assortis des sanctions et l'identification des services déconcentrés où la pratique est assez récurrente. Plus de précisions dans ce reportage de Oumarou Kadili de CRTV à Damawa.
L'absentéisme des agents de l'État à leur poste de travail est également légion dans la région de l'Adamawa, si l'on s'en tient au cas régulièrement statué par le Conseil régional de discipline. Ametissa Zabagaï, délégué régional de la fonction publique et de la réforme administrative.
Par conseil, nous traitons en général 10 à 15 dossiers sous la présidence de Monsieur le Gouverneur. Chaque année, nous tenons au moins 5 conseils régionaux de discipline. Et ça nous permet effectivement d'évacuer l'ensemble des dossiers. Parce que le conseil régional de discipline ne juge pas seulement des questions de faute professionnelle, mais également de faute extra-professionnelle.
Ce constat impose donc un rappel à l'ordre et des sanctions qui vont avec quand c'est nécessaire à l'égard des fonctionnaires indélicats.
On rappelle à l'ordre l'agent public qui est absent à son poste et que par la suite ne puisse pas être disponible à son lieu de travail, qu'un dossier disciplinaire soit constitué et qu'il soit transmis au conseil régional de discipline pour que le mise en cause soit effectivement traduit au conseil de discipline. Chaque fois qu'il y a un cas d'indiscipline, chaque fois qu'il y a un cas d'absence irrégulière, systématiquement ces dossiers sont transmis. Ça permet un peu d'amener les uns et les autres à de meilleurs sentiments.
Sont par ailleurs identifiés grâce à cette instance les administrations publiques les plus indexées par le phénomène.
Globalement, c'est les ministères à gros effectifs, notamment le ministère des enseignements secondaires, de l'éducation de base, de la santé publique, dans une certaine mesure le ministère de l'agriculture, qui ont une représentation sous-régionale, c'est-à-dire dans des localités très éloignées de la métropole régionale.
Et en autour de lui, les délégués régionaux, au cours d'une entrevue sous sa convocation, la situation a alors amené le gouverneur de la région, Kildadi Tagieke Boukar, à monter au credo pour une mise en garde.
Nous voulons une administration dynamique, une administration de développement. Cette administration doit être efficace, efficiente. C'est à cela que nous devons tous nous atteler à faire.
Il y va du bon fonctionnement de l'appareil étatique camerounaise dans cette partie du pays, en la dénuant surtout de tout ce qui pourrait compromettre la qualité des services offerts aux citoyens. Ngaoundéré, Oumarou Kadili, CRTV.
À l'ouest du Cameroun, le café connaît une seconde vie après des années de vaches maigres dues à la chute drastique du prix du kilogramme à la vente. Une renaissance qui se traduit par l'augmentation du volume de production et principalement de l'arabica qui pousse sur les meilleures terres de l'ouest. À l'origine, une mesure d'accompagnement du gouvernement par la subvention du coût des engrais auprès des planteurs et du coup l'espoir du retour des bonnes affaires autour de l'or noir commence à poindre dans les consciences. Le reportage de Polly Wafo de CRTV Ouest à Bafoussam.
Nous sommes ici uniquement pour le trier dans le café. Trions les déchets, les mains, parce que la machine ne peut pas mieux trier que les mains.
Véronique fait partie de la trentaine de femmes disposées de part et d'autre de la longue table de triage de la coopérative des planteurs de la MIFI. La salle, où régnait un calme absolu il y a encore quelques mois, reprend vie. À la belle époque du café dans les années 90, il n'y avait pas de jour mort pour ces femmes. En 2019, seulement 997 tonnes de café arabica ont été produits dans la région de l'Ouest. Le diagnostic a déjà été fait. Pancha Alassa, propriétaire de 34 000 pieds de café dans le Noun.
Je suis né dans le café. Nous avons constaté une chute drastique des prix sur le marché national et même international.
Bonne nouvelle, l'État a décidé de siffler la fin de la récréation. Premier acte fort, l'instauration d'un guichet pour la subvention des fertilisants.
Il y a un an et demi, on avait reçu de la délégation régionale de l'agriculture de l'Ouest 15 sacs d'engrais. Et ça, c'était gratuitement.
À ne pas négliger, dans cette option de relance de la filière café, le coup de grâce de la sensibilisation aux bienfaits de la caféine. Michel Fosseau, directeur de la coopérative des planteurs de la MIFI.
Ce qui se fait aussi le retour, c'est que les Camerounais s'habituent déjà à consommer leur café. Rien qu'ici à l'ouest, parlons de la Kaplani, je suis à 175 000 tasses.
Il reste maintenant que la main d'œuvre. Les jeunes ayant délaissé la campagne pour les villes à la suite de la chute du kilogramme de café flairent le bon coup. Car les bonnes affaires autour de l'or noir sont de retour. Bafoussam, Polly Wafo pour le Journal des Régions.
Le dressage des chiens, une activité qui vaut son pesant d'or dans la ville de Berthois. Albert Dibrine s'est spécialisé dans cette activité où il tire l'essentiel de ses revenus. Pour ce jeune, les propriétaires des chiens devraient se soumettre à cet exercice de dressage pour avoir de véritables animaux de compagnie à la maison. Le reportage de Dieudonné Taouyan de CRTV Est à Berthois.
Albert Gibrine est dresseur des chiens dans la ville de Berthois. Âgé d'une trentaine d'années, il exerce cette activité avec passion depuis le bas âge, lorsqu'il a découvert que cet animal de compagnie est un ami de l'homme.
Le dressage, c'est pour que le chien puisse obéir à tout le monde à la maison, que ce soit l'enfant, que ce soit la mère. Et c'est une transition que le dresseur amène au propriétaire à avoir ce contact, parce que le dresseur, lui, fait le travail, il fait ce qu'on appelle l'association familiale.
Dresser un chien pour ces derniers est une nécessité qu'il conseille à chaque propriétaire.
Plus amener les dresseurs avec les enfants, que ça soit une communication. Puis on a souvent des difficultés à la maison que les enfants ont peur du chien. Pourtant, le chien, lui, d'abord, c'est le premier animal que l'homme a adopté et c'est le meilleur ami de l'homme.
Et les propriétaires de chiens sont nombreux à se soumettre à cet exercice. Éric Landry est l'un d'eux.
Le fait d'avoir un chien dressé, surtout, ça veut que je sois un peu plus tranquille quand j'ai voyagé. Plus important, c'est qu'ils mangent normalement, qu'on n'ait pas sauté leur repas, il n'y a pas de problème.
Pour Albert Gibrine, être dresseur de chien n'est pas une tâche aisée, mais sa passion et son amour pour ses métiers sont la source de sa motivation au quotidien. Berthois, Dieudonné Taouyan, CRTV.
Vous écoutez le journal des régions sur le poste national de la CRTV. Parlons des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 qui s'intensifie sur tout le triangle national. Ndjom et Saman, un village situé à 40 km de Saint-Mélima dans le sud, les élèves de l'école primaire sont désormais prêts pour la rentrée du 9 septembre prochain. Grâce à la générosité de Jean-Jacques Mebiam Iya, une élite du village, il vient de recevoir des bourses d'études et des fournitures scolaires. La cérémonie présidée par Sa Majesté Louis Magloire et Fangon, chef de Ndjom et Saman, a marqué un tournant dans le soutien à l'éducation locale. Plus de détails avec Alice Siester et Sian de CRTV Sud.
Dans un coin du sud Cameroun, Ndjom et Saman s'anime en vue de la rentrée scolaire. Ce village, divisé en 7 hameaux et long de plus de 7 kilomètres, voit ses habitants se mobiliser pour l'éducation de leurs enfants. Sa Majesté Louis Magloire et Fangon, chef du village.
On a eu l'idée de créer nous-mêmes notre développement et c'est ce qui explique cette mouvance et cette adhésion de tous les fils et Saman derrière ces idéaux de développement que nous prenons.
Des bourses d'études, cartables d'école et des cahiers pour tous les élèves qui ont choisi de fréquenter Ndjom et Saman. Jean-Jacques Mebiam Eya, donateur.
Il faut aider la jeunesse. La jeunesse, c'est le futur du Cameroun. La jeunesse, c'est le futur du village. Alors, toute la motivation que j'ai pour aider ces jeunes.
Véritable coup de pouce, symbole d'un engagement fort de la communauté éducative pour garantir à chaque enfant les moyens de réussir. Dans ce village où la solidarité est de mise, la rentrée se prépare sous de bons auspices et les bénéficiaires ont les mots pour le dire.
Avec le jeune Rihanna, c'est privé de mes parents à faire la rentrée scolaire. Je remercie vraiment les tontons qui m'ont donné cette prise d'excellence.
Le père de mes enfants est décédé. Je suis mère de 10 enfants. J'ai tellement la joie parce que les élites de Ndjom et Saman à faire inscrire mes enfants à l'école.
Ndjom et Saman, l'éducation est un véritable levier pour bâtir un avenir prometteur. Et la rentrée s'annonce avec un optimisme grâce à cette solidarité exemplaire. Ndjom et Saman, Anissé Siesterissian, CRTV.
Les préparatifs gagnent également en intensité dans le Mayo-Danay, région de l'extrême nord. Dans les familles, le financement de la rentrée scolaire taraude encore les esprits. Les épargneux, les tantines sont quelques sources de financement en dehors du crédit scolaire contracté auprès des institutions bancaires. Les parents ne font abstraction d'aucune piste pour franchir la phase des préparatifs dans les familles. Honoré Boaké est allé à la rencontre de quelques parents à Yagua dans le Mayo-Danay. Voici son reportage.
Ingéniosité et détermination sont au cœur du financement de la rentrée scolaire dans le département du Mayo-Danay. Conscient de la part sacrificielle de ce devoir éducatif, certains parents ont misé sur les tontines comme stratégie d'épargne pour envoyer les enfants à l'école.
J'ai à ma charge presque 6 enfants. Dès que je prends, j'achète les fournitures scolaires à mes enfants.
Il ne faudrait pas attendre le dernier jour. C'est à chaque mois qu'on réserve un paquet. Et là, c'est moins lourd. J'avais pris une seule fois et ça a pesé sur la régularité de mon budget prévisionnel.
À côté des adeptes des tontines figurent ceux qui contractent des crédits auprès de leurs institutions bancaires. Le fameux crédit scolaire, comme son nom l'indique, devient ainsi une source de financement incontournable de la rentrée dans les familles.
Le crédit scolaire, c'est un élément très important pour la scolarité des enfants d'abord.
On ne peut que le prendre parce qu'il faut préparer la rentrée des enfants. On en a au secondaire, au supérieur. Sans les crédits scolaires, on ne peut pas s'en sortir.
Pour les parents avertis, le financement de la rentrée a été enclenché dès la remise des bulletins du troisième trimestre. C'est ainsi que des prélèvements mensuels ont été effectués sur le salaire. Question de constituer le capital des préparatifs de la rentrée.
Le jour où les enfants partent en vacances, on met déjà l'idée qu'on doit préparer la rentrée prochaine. Chaque fois qu'on touche nos salaires mensuels, on doit mettre de côté quelque chose pour préparer la rentrée. Ça ne m'arrive jamais de prendre le crédit scolaire.
Sur ces entrefaits, dans les villages, moutons, chèvres et volailles sont conduits dans les différents marchés périodiques du Mayo-Danay. Les produits de la vente de ces animaux constituent les fonds consacrés au financement de la rentrée scolaire. Yagua, Honoré Mbouaké, CRTV.
À Marois, toujours dans la région de l'extrême nord, les couturiers multiplient d'ingéniosité pour satisfaire élèves et parents qui ont passé les commandes. D'autres attendent encore les ressources financières pour se diriger vers les ateliers de couture et chacun y va de son astuce. Les ateliers de couture, vu les sollicitations, ne désemplissent plus. Adam Oussanda Kaigama de CRTV Extrême Nord nous en dit plus dans ce reportage.
Les vrombissements des machines dans les ateliers de couture de la ville de Maroua ne s'arrêtent plus. Les gérants de ces espaces confectionnent déjà les tenues scolaires comme Nourou Yaouba, couturier au marché central de Maroua.
Le travail est déjà accéléré. On travaille jour et nuit. Là où je suis là même, j'ai des tenues d'école bilingue, tout juste près du collège. Ils voulaient des tenues. Au moment où les tenues sont déjà disponibles, ils paient l'argent quand ils le récupèrent.
Les élèves prévoyants passent soit pour récupérer les tenues déjà disponibles, soit pour passer les commandes.
J'ai eu un petit argent. Si je n'achète pas la tenue, je vais perdre l'argent là. Et comme la rentrée est proche, je suis venu couper la tenue et puis je pars coudre et je pars à l'école.
L'affluence observée dans certains ateliers n'est pas générale. Dans d'autres, par contre, ce n'est pas le rythme attendu. Les machines ne tournent pas en plein régime.
Pour le moment, le marché est encore dur. Il n'y a pas encore de clients. Les clients sont encore attendus. Pas trop d'influence au niveau du marché. C'est encore très calme.
Je n'ai pas encore confectionné ma tenue parce que ma maman n'a pas encore pris la tontine. Dès qu'elle va bouffer, elle va m'acheter la tenue. Je suis venue maintenant m'entendre avec le couturier.
Je vais d'abord chercher l'argent. Après, on achète. On avance les coutumiers. J'ai mon taille à moi.
Entre pression et satisfaction, le couturier s'active pour finaliser et livrer les commandes. Maroua, Adamu Sandakaigama, CRTV.
En cette veille donc de la rentrée scolaire, le petit commerce bat son plein dans la région du centre. Les nombreux jeunes qui s'y intéressent préfèrent le pratiquer de façon ambulatoire. Si l'activité nourrit son homme, il n'en demeure pas moins que c'est un quotidien jonché de difficultés. Joséphine Eneke de CRTV Centre a fait une incursion dans ce milieu commercial plein de péripéties. Voici son reportage.
Le commerce ambulant s'inscrit au rang des piliers de l'économie informelle. Il anime les rues de nos villes avec ses couleurs et sa méthode de vente à la criée. Derrière cette façade dynamique se cachent des défis immenses. Ces marchands arpentent au quotidien un chemin semé d'embûches. Cyril Mamoudou.
La mairie nous dérange. Quand ils arrivent, on est obligé de porter la marchandise et fuir. Des fois, ils nous poursuivent. Et quand ils vous portent, vous trouvez en train de dépenser des sommes d'argent énormes.
La précarité de leur statut les expose à des risques, harcèlement, compétition acharnée pour les emplacements les plus rentables.
C'est pas facile, hein. Depuis le matin, je marche là. Comme nous sommes aussi nombreuses, c'est pas facile d'avoir les clients. Il y a des jours où tu vends à peine 2 à 3 gourdes, ainsi que les gamelles. Et d'autres jours où, pour que tu arrives à avoir 500, c'est très compliqué.
Les conditions météorologiques constituent aussi un frein à leur déploiement optimal.
Les pluies, quand il pleut, nous sommes obligés de bâcher. Quand vous bâchez, il n'y a aucun client. Le client ne peut rien voir. C'est mauvais. Il n'y a pas de clientèle et vous n'avez pas de revenus.
Malgré ces désagréments, le commerce ambulant fait son bonhomme de chemin. Il reste une source essentielle de revenus et de services pour de nombreux citoyens de la région siège des institutions républicaines. Dans le centre pour le Journal des Régions, Joséphine Eneke.
Et parlons de cette catégorie qui n'échappe pas à l'effervescence actuelle, c'est celle des candidats malheureux au baccalauréat et au probatoire de l'enseignement secondaire général. À peine remis de l'échec à ces examens, il faut aller de l'avant, être prêt pour la prochaine année scolaire et se fixer de nouvelles résolutions. C'est du moins l'état d'esprit de ces élèves rencontrés par notre stagiaire Boris Lemamoum dans ce reportage.
Ça m'a beaucoup traumatisé parce que je ne m'attendais pas à cet échec.
Elle a un peu pleuré, mais c'est passé.
Candidate malheureuse au baccalauréat et au probatoire littéraire de l'enseignement général, Julien, 17 ans, et Audrey, 18 ans, se remettent progressivement de l'échec à ces deux examens.
C'était aussi une année difficile.
Passé le temps des larmes et des remords, nos jeunes élèves sont dans la phase d'examen de conscience nécessaire pour aborder positivement la nouvelle année scolaire qui s'annonce.
L'échec permet de corriger ses erreurs.
Je vais doubler d'efforts.
Avec le soutien des parents, des proches, les enseignants et autres psychologues. Julienne et Audrey préparent déjà, elles aussi, la nouvelle rentrée scolaire.
On a les cahiers, les sacs, les tenues. On nous a inscrits.
La rentrée est en train de se préparer, c'est doucement. On achète les fournitures.
Les conseils prodigués par leurs proches leur permettent d'attendre la reprise des classes de manière sereine malgré quelques peurs.
Comme je connais déjà que si je ne travaille pas, je vais échouer. Ça m'a m'encouragé à apprendre plus que ce que j'ai fait l'année passée.
Julienne et Audrey sont prêtes à reprendre le chemin de l'école, consciente qu'elles doivent redoubler d'efforts pour une meilleure année scolaire 2024-2025.
Et une question dans cette édition du Journal des Régions, comment les parents arrivent-ils à contrôler les contenus que leurs enfants visionnent à travers l'écran? À Douala, beaucoup de parents cliquent sur l'option « Contrôle parental » pour prémunir leur progéniture de la perversité véhiculée dans certains programmes. Écoutons quelques-uns qui se sont confiés à Stéphane Madiba, stagiaire à Certeville Littoral.
Dans la diffusion des programmes télévisés, les enfants sont de plus en plus exposés à des programmes qui nuisent à leur bonne éducation. Les parents, pour éviter cela, optent pour des méthodes qui, selon eux, semblent être appropriées pour éviter tout incendie. Alphonse Timmy.
Il faut conseiller les enfants. Parce que les enfants, à nos jours, si tu ne les conseilles pas, ils vont prendre une autre dimension. C'est pour ça qu'il faut les conseiller.
Le dialogue est l'une des méthodes préconisées. Il reste insuffisant. Lorsque les parents sont absents, certains enfants s'entêtent et ont tendance à regarder des programmes interdits. Joël Eyenge est un parent d'élève qui a trouvé une solution à ce problème.
Pour les empêcher de regarder, c'est simple. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Je mets un code parental. Dès qu'ils arrivent dans cette chaîne, ils ne peuvent pas déverrouiller. C'est seulement qu'on laisse ce code.
Cependant, le contrôle ne revient pas qu'aux parents. Les aînés, eux aussi, en l'absence de ces derniers, ont une responsabilité. Certains parmi eux utilisent diverses méthodes pour protéger leurs cadets.
Pour éviter que mes frères et sœurs ne tombent sur des contenus qui ne sont pas bien pour eux, je m'assois souvent avec eux pour regarder la télévision. Quand une scène qui n'est pas bien pour leur âge, je m'assure de vite zapper pour qu'ils ne regardent pas. Quand la scène est passée, je peux remettre pour qu'on regarde ensemble.
Moi, j'interdis à mes petits frères de regarder les mauvais dessins animés pour leur bonne éducation.
Le contrôle parental sur les programmes visionnés par les enfants est une tâche qui revêt une grande importance. Tout le monde devrait s'impliquer afin de protéger les tout-petits.
Et c'est sur ce reportage de Stéphane Madiba que se referme le Journal des Régions avec à la technique Octavie Tomta. La réalisation était assurée par Francine Bilouet et Patrick Oscar Rafan avec la collaboration des stagiaires logistiques. À ce micro, je suis Julieka Omar Waliou. Mesdames, Messieurs, merci. Restez à l'écoute des programmes de Cameroun Magazine sur le poste national de la CRTV. À demain, Armand Nonga.
Merci, Julieka Omar Waliou.